Je suis l'enfant d'un silence. J'y suis née, j'y ai grandi. Ça a duré 31 ans et un jour, il y a eu comme une brèche. Ça a craqué. Le disque s'est mis à tourner. Des derboukas, des tambourins, des violons. Et une voix, rieuse et un peu éraillée, comme celle que j'entendais de mes tantes dans le patio de mon enfance l'été. Ce même patio où je voyais ma grand-mère se prosterner sur un petit tapis et se relever dans des chuchotements insaisissables. Je n'ai de souvenir que leur voix et leur rire, leurs mots je ne les comprenais pas. Cette musique-là, je pense en fait que je l'avais en moi depuis mes premiers étés, dans la voix et les rires de mes tantes, de ma grand-mère. Cette musique-là a été ensevelie dans le silence et l'absence. De mes 5 ans à mes 15 ans, ma mère n'est pas revenue à Tunis et moi non plus. Depuis, tout m'a semblé chaotique, laborieux là-bas. Je n'avais plus aucun mot, même si j'en reconnaissais la musique. Faire taire le silence. Un documentaire d'Émilie Chaudet, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. C'est avec un micro que j'ai commencé à me réapproprier Tunis, dans l'après-révolution, quand j'ai commencé à faire de la radio. Et puis un jour, elle m'est apparue. Son visage dépassait d'une petite caisse de 45 tours chez un antiquaire de la Médina. Un visage en noir et blanc, légèrement incliné, sourire sage, regard en biais cerclé de noir, boucle brune relevée en queue de cheval. Je ne savais pas ce que ce disque renfermait. Il n'était pas rayé, je l'ai acheté. Et rentré en France, je l'ai fait écouter à ma mère. Je croyais la faire sourire. Je n'ai pas vu son visage quand elle a quitté la pièce. Le disque continuait à tourner, elle ne revenait pas. Je l'ai trouvée en train de faire ma vaisselle dans ma cuisine. Elle avait ouvert le robinet d'eau et pleurait à chaudes larmes, pensant que l'eau du robinet couvrirait suffisamment ses sanglots.
Je voudrais que tu me racontes ce dont tu te souviens, ce moment où je t'ai fait écouter le disque de Soulef et où tu as eu cette émotion.
Oui. D'abord, je ne savais pas que tu as acheté le disque et quand je l'ai écouté, je ne peux pas t'expliquer c'est quoi. Ça m'a envahi de non seulement de tristesse, mais ça m'a plongé des années en arrière et j'étais triste et j'entendais les voix de ma sœur aînée qui chantait, ma mère. Et c'est pour ça que ça m'a envahi le cœur de tristesse. Et ça m'a plongé des années en arrière. Ça m'a rappelé notre maison, ça m'a rappelé quand ma mère épluchait les pommes de terre ou autres légumes et elle chantait en même temps que la radio. Et dès qu'il mettait une chanson mélancolique, tout le monde, c'est vraiment, on voit la tristesse sur le visage. Et dès qu'il y a une chanson qui est gaie, tu comprends pas, chacune, elle se met à danser. Voilà.
Toi, tu as dansé sur cette chanson?
Oh oui, mais alors là, on était tous à danser. C'était soit tu peux pas la tenir quand il y a quelque chose, il faut qu'elle danse, hein. Elle lâche pas. Hein. Ah non, c'était.
Toi, c'est ta sœur.
C'est ma sœur qu'on a 2 ans de différence. Alors elle, la chanson tunisienne, elle danse surtout.
Et moi, quand je t'ai vue pleurer la première fois, bon, ça m'a surprise parce que je m'attendais pas à ça. Ouais. Je pensais que ça allait te faire plaisir.
Tu ouais. vois.
Mais après, je me suis dit, finalement, j'ai l'impression que j'ai très souvent vu maman pleurer à Tunis. Ah. Cette image, elle ne m'était pas étrangère.
Et c'est-à-dire, pleurer, des fois, ça me faisait ou de la peine ou de joie. Parce que quand j'arrive, je pleure parce que c'était, je la prenais dans mes bras, qu'elle était devenue toute menue. Tu vois, toutes les choses défiler. Tu te dis, ah ben, j'ai pas vu le temps passer, et voilà.
Moi, je me souviens très bien de ce moment. Le visage de ma mère était comme celui d'une petite fille inconsolable. J'étais si mal de la voir comme ça. Elle n'arrêtait pas de répéter que ce n'était rien, et je crois que j'en ai eu assez d'entendre ça. Aujourd'hui encore, elle tente de minimiser. mais j'ai l'intuition que ces larmes sont bien plus qu'une réaction nostalgique.
Je pense que tout le monde arabe, cette chanson, ils la connaissent. Enfin, Soulef, c'est connu quand même. C'est pour danser, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson, au fond ?
Le plus gâté, le plus chéri, c'est la prunelle de mes yeux. Voilà. Et elle le répète. D'accord. Dalel et Dalouli. Le plus chéri, le plus gâté, voilà. C'est ça.
Ma mère s'arrêtera là dans la traduction.
Soulef, je pourrais dire, comme Sheila, Sylvie Vartan, c'est quand même les années 60, 70.
Ma mère, c'est une forteresse qui retient toutes ses émotions fermement cadenassées à l'intérieur d'elle-même.
De toute façon, je chante toujours l'amour.
Elle n'en laisse rien paraître à sa voix, mais moi, assise à côté d'elle, je vois son visage trembler un peu. Les larmes pourraient revenir et je n'ai pas envie d'affronter ça à nouveau. C'est moins sa tristesse que mon impuissance à la déchiffrer que je redoute.
C'est vrai que moi, quand je repense à votre fratrie, je me dis que vous aviez l'air très unis et puis en fait, il n'y a plus de lien entre vous, là.
Ah ben non, là, ça c'est les liens, c'est... Tu sais, le lien qui était, c'était ma mère et ma mère est partie. Quand la mère est là, c'est vraiment le noyau dur.
Finalement, je sais très très peu de choses de la famille que vous formiez avec tes parents et tes frères et sœurs.
On était très très soudés. Moi, j'étais la dernière. Alors moi, Nejia et Souad et Assed, c'est-à-dire ces quatre-là, dès qu'il y a quelque chose, Hassan, il est toujours, dès que je pleure ou j'ai quelque chose, que ma mère, elle a peur des poux, elle me tirait les cheveux comme ça, et lui, il détachait, il me peignait, il me dit, allez, va à l'école, il était là quand j'ai besoin de quelque chose. Nejia, quand je suis malade, elle disait, oh non, j'ai les 500 millimes, il faudrait que tu prennes pour y aller au médecin. Tu vois, ça, on était trop... Et moi, par contre, Souad, c'est moi que j'étais toujours derrière elle parce qu'elle faisait les 400 coups, moi je suis toujours derrière.
Ma mère ne m'a jamais parlé arabe et à chaque moment de ma vie à Tunis, cette langue m'a manqué. Je n'ai jamais pu communiquer avec ma grand-mère Chérifa, ni avec mon grand-père Manoubi. Je prononce leurs prénoms et leur nom de famille avec un accent franchouillard atrocement gênant quand je suis là-bas. Je n'ai vu de mes tantes que leurs regards lointains et leurs sourires timides et polis quand je venais les voir. Je me sentais coupée d'elles. Je me sentais coupée. Je me rends compte très vite d'une chose. Ce disque de Soulef, c'est comme un souvenir de ce temps qu'on ne m'a jamais vraiment raconté. Quand ma grand-mère est morte en 2012, ma mère est partie à Tunis sans me prévenir. Je lui ai demandé de me rapporter d'elle un souvenir, un objet qui me parlerait de cette femme que j'ai si peu connue, faute de pouvoir lui parler et la comprendre. Ma mère est revenue avec un foulard qu'elle lui avait offert quelques mois avant sa mort. Chérifa n'avait pas eu le temps de le porter et il sentait encore le neuf. Je me mets à faire des recherches sur Soulef, sur ce disque. Je me rends compte que cette chanteuse, Soulef, est encore vivante. À l'époque où je la découvre, en 2016, elle a 76 ans. Je découvre aussi qu'elle est l'une des plus grandes chanteuses tunisiennes de ces dernières décennies, avec un répertoire de 750 chansons qu'elle a chantées dans tout le monde arabe, du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite. Je découvre, moi, cette grande chanteuse tunisienne à 31 ans, et une fois de plus, je me prends en pleine figure mon inculture, mon héritage inexistant. Je suis une enfant du silence. J'y suis née, j'y ai grandi. La musique va y mettre fin. C'est lors de ce même voyage à Tunis que ma tante Souad va faire un drôle de lapsus. À chaque fois que je viens la voir à Tunis, je repars immanquablement avec les bras chargés de paquets pour mes parents. Ce jour-là, elle me tend une boîte de gâteaux en me disant « c'est pour ton père ». Mais mon père s'appelle Daniel et Pierre est mon parrain. Elle touche ici une zone de doute, une zone de silence. Quand je la questionne sur ce lapsus, quelques heures plus tard, dans sa voiture, ma tante Souad en perd son français et ne me parle plus qu'en arabe. Je reviens donc en France avec un 45 tours et un lapsus. Un disque qui fait pleurer ma mère à chaudes larmes et une confusion qui résonne au plus profond de mes doutes.
Vous vous êtes connus en quelle année? C'était avant que je naisse ou pas?
Non.
Je redécouvre aujourd'hui, 6 ans après ce voyage, un enregistrement clandestin de ma mère dans sa cuisine. À l'époque, j'enregistrais frénétiquement les membres de ma famille.
Oui, Didier doit avoir 7 ans à peu près.
Oui, donc j'avais 2 ans.
Oui, à peu près. On a été chez lui en Espagne parce qu'il avait la maison.
Je me souviens.
Ouais. Ben, il aime bien la vie, lui, ça va être tranquille. Voilà.
Je ne sais toujours pas aujourd'hui en expliquer la vraie raison. Dans ma famille, on ne parle pas beaucoup et jamais de soi. Je crois que je voulais peut-être en finir avec ça.
Non, mais en fait, c'est quand je lui ai dit « Mais pourquoi tu veux donner des gâteaux à Pierre aussi ?» Je me suis dit « Mais en fait, je me suis jamais posé la question de d'où il sortait, Pierre. » Tu vois. Je l'ai toujours connu dans le paysage et j'ai jamais...
C'était quand il avait sa femme.
L'effondrement commence lentement. Le visage de ma mère change.
Donc, d'accord. Alors, vous avez rencontré Pierre et sa femme, Suzanne, à une soirée organisée par Jamila.
Ouais.
Je ne l'ai jamais vue comme ça.
Donc, ça devait être en...
Pour la première fois de ma vie, je doute de ces mots.
Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, oui.
Si tu me dis que Didier avait 7 ans, donc moi 2 ans.
Oui, ça doit être ça, oui.
Cette musique si familière, je ne la reconnais plus.
J'ai une dernière question à propos de Pierre, mais pourquoi il est tout le temps, à ton avis, un peu sec avec papa? Tu sais, il le rend embarrassé souvent, il est un peu méprisant. Et parfois, je suis obligée de dire, bah tu sais, c'est pas bête hein, ce qu'il vient de dire, papa.
Mais il ne le faisait pas maintenant, avant.
Oui, peut-être. Avant aussi. Mais même...
Moi, même maintenant? Non, maintenant.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc... Mais tu vois, je me suis toujours dit pourquoi... Tu vois, ben, avec toi, il se la boucle, tu vois. Enfin, ouais. Toi, tu peux quasiment lui dire ce que tu veux, il se la
non,
boucle.
Mais...
Et puis avec papa, il...
Parce que papa, des fois, il ne s'affirme pas, qu'il ne dit pas les choses, alors...
Ouais.
C'est bizarre, ma chérie te pose des questions comme ça, c'est ça que...
Non, mais parce qu'en fait, à partir du moment où je me suis dit qu'est-ce que Pierre fout dans notre paysage, alors que franchement, tu vois, toutes tes amies, toutes tes amies,
oui.
Je sais comment ils sont arrivés là.
Et par Pierre, d'autres, toujours.
Pierre, c'est comme s'il faisait partie de la famille.
Par en fait. D'autres, toujours, enfin, c'est comme, par d'autres.
D'ailleurs, je l'ai souvent présenté comme mon oncle, tu vois.
C'est parrain, mais...
Oui, parrain, ouais. Mais tu vois, quand j'ai eu une période anti-religion à fond à l'adolescence, je disais que c'était mon oncle.
Ah oui.
Une sorte d'oncle.
C'est marrant que je ne l'ai jamais entendu, ça.
Bah, je le disais peut-être à mes copains ou à mes copines quand... Ah. On le voyait sur des photos. Et puis maintenant, c'est redevenu mon parrain. Mais...
Je ne veux plus poser de questions. J'ai peur des réactions et des réponses que je peux provoquer. Quand je réécoute cette archive, je me rends compte que c'est surtout moi qui parle. Je suis à la recherche de paroles qui n'adviennent pas. Peut-être est-ce pour ça que je me suis tant raccrochée à cette chanson, Yabou Dalel, l'enfant gâté. À cette chanteuse qui parle la même langue que ma mère, ma langue maternelle que je ne comprends pas. Alors, je continue mes recherches sur Soulef. Ses autres chansons, les textes. Mes meilleurs alliés dans cette quête se nomment Wikipédia, YouTube et Google Traduction. Mais je me heurte là aussi à une forme de silence.
Elle chante Blanche Kataïef au paradis et le cœur a peur de devenir fou comme un cerf.
Je persiste et je prends pour la première fois des cours de dialecte tunisien.
Alors, il y a différentes manières de dire maman, omi,
omi.
Ou ma.
Ma. Ma mère, elle disait omi.
Je regarde, lis et écoute tout ce qui se rapporte à la Tunisie, à la famille, à la musique arabe.
Orti.
Je mélange tout.
Orti, ma sœur.
Grand-mère, il y a jatti, même métier, mima.
Et je me plonge aussi dans les albums photos.
Jatti, babar zizi.
Mon père Daniel fête son anniversaire. Moi, je dois avoir 6 ans, il y a un gâteau au premier plan et j'entoure mon père de serpentins. À la page d'après, c'est Pierre qui m'entoure de ses bras. On porte le même regard à l'objectif. Était-ce mon père ou ma mère qui prenait la photo? Je regarde longuement ces photos de famille en me rendant compte que je regarde des étrangers. Aucun d'eux ne m'a jamais rien raconté. Alors à cette période, je me mets à enregistrer régulièrement mes parents, mais j'arrête de cacher l'enregistreur. Avec un micro, j'ai moins peur de poser des questions.
Quand tu as rencontré maman, tu es tombé amoureux d'elle tout de suite ou pas tout de suite?
Oui. C'était très dur parce qu'il fallait se voir en cachette parce que elle avait sa sœur qui habitait pas loin et donc la surveillait, et surtout son beau-frère. Et donc on se voyait qu'en cachette. Donc on se donnait des rendez-vous dans des rues où on se voyait où elle travaillait.
C'était dur pour toi ?
Ben, c'était un peu dur au début, c'est sûr.
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré plus d'un an avant vraiment que ça devienne plus sérieux. Et, ouais.
Et que là, elle te présente à sa sœur et à son beau-frère ?
Oui, qui n'ont pas accepté. Mmh. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on s'est quand même mariés, sans eux. Ils l'ont su qu'après.
Ils ont su que vous étiez mariés après votre mariage ?
Ah bah oui, bien après, plusieurs années après.
Ah bon ?
Ah oui.
Combien de temps après ?
Alors là, il faudrait que je revoie avec maman. Mais...
Et vous avez voulu des enfants tout de suite ou pas ?
Non, pas tout de suite, non. C'est venu après peut-être 2 ans après, oui, 2-3 ans après, oui.
Toi, tu voulais des enfants déjà avant de la rencontrer, maman ?
Oui, bah c'est oui et non, hein, c'est comme les choses, voilà. C'est-à-dire au début, elle a fait 2 fausses couches, c'était dur. Et puis après, il fallait faire très attention, il fallait qu'elle soit couchée souvent, pas faire d'efforts, c'était dur, voilà. On a eu Didier, et après, quelques années après, on a dit, tiens, on en aurait bien un deuxième quand même, pour pas qu'il soit tout seul, parce que comme il réclamait souvent, il dit, moi je suis tout seul. Alors on a dit, tiens, on va essayer pour avoir une petite sœur ou... Un petit frère, alors ça ne voulait pas marcher. Et puis après, d'un seul coup, quand on a dit tant pis, on va laisser tomber, c'est comme ça, c'est la vie comme ça. Et puis c'est là, un jour, elle est tombée enceinte, 5 ans après. C'est la nature qui en voulait ainsi. Et voilà, et on a eu Émilie. Voilà. Et la vie a continué comme ça, avec les enfants, très bien, voilà.
Comment ça, très bien ?
Une vie de famille super, on sortait, il y avait l'école, et tout ça, c'est une vie normale. Hein.
Si tu veux que je le coupe ?
Non, je ne sais plus quoi te dire, hein.
Ton mariage, t'en as quel souvenir, ton mariage avec maman ?
Ah bah, très beau souvenir. Hein.
Tu lui as demandé sa main ? Comment ça s'est passé ?
Oui.
T'as fait quoi ? T'as fait comment ?
Enfin, on a décidé tous les deux de se marier, malgré que beaucoup étaient contre. Mmh. Voilà.
Beaucoup, c'était...
C'était surtout le beau-frère, la belle-sœur... Voilà.
Mais t'as rencontré les parents de maman ?
Ah oui, qui étaient très sympathiques, eux qui ne voyaient pas d'opposition. Hein, c'était des gens très, très ouverts.
Et t'as rencontré les parents de maman et t'as rencontré ses autres frères et sœurs ?
Oui.
Ça s'est passé comment avec ses autres frères et sœurs ?
Dans l'ensemble, pas trop mal. Pas trop mal, hein. C'est-à-dire on n'aura pas demandé leur avis. Hein. Voilà, et ils n'ont pas donné.
Ce jour-là est un jour heureux, je m'en souviens si bien. On discute sur le canapé du salon, j'ai 31 ans et pour la première fois mon père vient de me raconter son enfance. Quand il me parle, je scrute son visage longuement, ses mains, et j'essaie de ne pas penser à ce que je vais faire. Le chemin a été si long pour que lui et moi nous puissions passer un moment l'un à côté de l'autre, à parler et à rire comme nous sommes en train de le faire. Pourtant, tout à l'heure, je lui couperai les ongles, prétextant une envie soudaine de m'occuper de lui. Et je mettrai ses ongles dans une enveloppe avec des cotons-tiges imbibés de ma salive. Le résultat arrivera 2 semaines plus tard par mail. La pièce jointe affichera le chiffre 0. 0% de probabilité de paternité.
Il y a plusieurs choses que je comprends pas, c'est comment toi t'as pu supporter ce fonctionnement et comment t'as pu accepter aussi qu'on ne me dise rien. T'as jamais eu envie, Pierre ? T'as jamais eu envie de me dire des choses ?
De te dire...
La vérité, t'as jamais eu envie ?
Mais si, on en a parlé plusieurs fois avec ta maman, mais je pouvais pas passer au-dessus d'elle, sinon ça aurait été...
C'était quoi si tu passais au-dessus d'elle ? C'était...
Mais de te dire la vérité, de te dire que tu étais ma fille, et, mais enfin d'arranger ça de façon à ce que tu sois pas trop non plus choquée.
Bah de toute façon, c'est un choc. Et donc, t'as plus aucun film de nous enfants ?
Non, j'ai plus rien. J'avais des films, surtout de Rungis, puisqu'on était à Rungis le week-end là. De toute façon, elle m'a fait effacer tous les films.
Elle était là quand t'effaçais ? Elle était à côté de toi quand t'effaçais les films ?
Oui, et puis toutes les photos. J'avais des photos aussi. Elle a tout embarqué. Ou déchiré. Elle avait toujours peur qu'il y ait des indiscrétions de fait.
Moi, j'avais pas conscience de tout ça. Moi, je comprenais rien. Je comprenais pas que t'étais
bien sûr,
père,
tu étais petite.
Je comprenais juste que... On allait parfois vivre chez toi un ou deux jours, ou je sais pas d'ailleurs. Moi, j'ai aucun souvenir de ces périodes. Moi, tu vois, j'ai été presque cambriolée, mes parents, d'albums photos, tu vois, en leur absence. Après tout ça, j'ai retourné les albums photos. J'ai tout embarqué.
Mais tu as trouvé des photos de cette époque-là ?
Mais oui.
Qu'est-ce que tu as trouvé comme
photos ? J'ai des photos de moi dans ta baignoire, à Rungis. J'ai des photos de moi dans ton salon. J'ai des photos... de moi à la sur la colline.
Il y a une photo que j'aimais bien. Je te mettais, tu étais toute petite. Dans les grandes surfaces, à l'époque, ils distribuaient des cartons pour faire les courses. C'est des cartons.
Mais je me demande si je ne l'ai pas, cette photo.
Et je t'avais mis dedans, tu rentrais juste.
Je me demande si je l'ai.
Alors, moi, j'étais toujours en train de grignoter, tu sais, des tranches de saucisson, tout ça. Puis je t'en donnais, toi, tu aimais ça. Et elle, elle ne voulait pas. Alors, je te l'ai donné en cachette.
Ouais. Du coup, j'ai des photos et puis j'ai plein de photos de moi à la maison, enfin chez avec papa et maman où t'es là quoi, et des photos qui sont très parlantes en fait. C'est j'ai mes deux papas et ma maman quoi. Et pour un regard neuf étranger, c'est évident ce qui se passe sur les photos.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ?
Bah parce que. T'es très proche de moi, parce que tu me ressembles. Moi, petite bébé, je te ressemblais beaucoup. Hein. Après, j'ai commencé à ressembler beaucoup à ma mère, mais bébé, je te ressemblais beaucoup. Ma mère, elle a dû avoir peur, d'ailleurs, que je te ressemble trop, je sais pas. Quand t'essayes de cacher l'origine du bébé et que ma tête, c'est quand même la tienne en tout petit, c'est pour ça que je fais ce test, parce que j'ai besoin aujourd'hui d'avoir quelque chose de fiable et de clair qui disent oui, c'est bien ça, parce que depuis 2 ans là dans ma vie, c'est quand même le grand retournement, le grand chamboulement, mais je suis à peu près sûre que t'es mon père, je suis à peu près sûre de ça.
Non, parce que je pense qu'il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. Et ta mère, elle était jeune quand je l'ai connue, hein.
Ouais.
Elle avait 24-25, on avait 15 ans de différence tous les deux.
Vous êtes rencontrés en quelle année ?
En 82.
C'était où que vous vous êtes rencontrés, que tu lui as laissé
Champs-Élysées.
Sur les Champs-Élysées, oui, c'est ça. Tu peux me dire la date de ta date de naissance ?
C'est le 7 septembre 1940.
40, d'accord. 1940, oui. T'es né en plein pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais moi j'ai des souvenirs. De temps en temps, il fallait descendre aux abris. Alors, il y avait toutes les familles du quartier qui étaient rassemblées, même les gens qu'on connaissait pas.
C'était déjà à Alger.
C'était à Alger, oui.
D'accord. Et donc, tu as vécu heureux avec toute ta famille.
Ah oui, on était heureux là-bas.
Il y avait toi et ta sœur.
Oui, ma sœur.
Et ta sœur,
puis j'avais de la famille, j'avais des oncles, des tantes, des cousins.
D'accord.
Je voulais te montrer une photo de ma mère.
Oui. Émilienne, c'est ça ?
Émilienne. Et mon père, Émile.
Oui.
Une photo que j'ai...
C'est toi qui as choisi mon prénom ou pas ?
Je pense que oui. Mais j'aurais dû t'appeler pas Émilie, mais Amélie.
Pourquoi ?
Parce que c'était ma grand-mère, Amélie. Émilienne, c'était ma mère, mais Amélie, c'était ma grand-mère. Et Amélie, je trouve que c'est beau comme prénom.
Et Émilie, t'aimais moins?
C'est bien aussi, c'est joli, mais Amélie, ça aurait peut-être été plus... Peut-être pas plus moderne, mais...
Et maman, elle pensait quoi du prénom?
Elle voulait t'appeler Narcisse.
Oui.
Tu disais où, t'étais au courant?
Oui, oui.
J'ai dit non.
Mais parce que c'était la version française, m'avait-elle dit, du prénom tunisien Narges.
Oui, mais Narcisse, en français, c'est...
Bah oui, c'est ce que... Oui, je l'ai échappé belle, ouais.
Je sais plus où est cette photo, autant...
Lors de cette conversation, nous étions en train de faire sécher des cotons-tiges imbibés de nos salives respectives.
Ah oui, regarde ma mère.
Avant que je ne les mette dans une enveloppe à destination d'un laboratoire d'expertise ADN au Royaume-Uni. Je n'étais plus sûre de rien.
Elle est belle, hein ?
Les mots me semblaient troués de partout. Ces adultes qui m'avaient élevée et entourée ne m'avaient pas donné les bonnes réponses et j'avais besoin de m'ancrer dans une vérité.
Je voudrais bien que tu me les envoies si ça te dérange pas.
Ces photos ?
Oui.
Quand Pierre est mort, il y a 2 ans, j'ai retrouvé le résultat de notre test agrafé à la page du 3e enfant dans son livret de famille. Et j'ai repensé à la blague qu'il aimait me faire quand nous avions reçu le résultat du test. Le document indiquait 99,9998% de probabilité de paternité. Et il me disait qu'il restait quand même 0,0002% d'incertitude.
On va aller manger parce que sinon...
Silence à nouveau. Ma mère n'a pas voulu à l'époque reparler de tout cela, ni mon père Daniel. Maintenant j'étais au courant et l'affaire était close. On pouvait passer à autre chose. Alors une fois de plus, je me raccroche, jusqu'à aujourd'hui encore, à des paroles que je ne comprends pas, mais dont j'ai l'intime conviction qu'elles me parlent. J'ai toujours eu l'intuition que ma mère n'était pas partie sans raison, et vu ce que je viens de découvrir sur ma propre filiation, j'ai toutes les raisons d'imaginer d'autres secrets. Partir seule de Tunis à 19 ans, sans amoureux à rejoindre en France, sans but professionnel précis. Pendant longtemps, je n'ai plus été capable de questionner ma mère. Ce n'est que là, il y a quelques mois, à l'approche de mon départ à Tunis, que j'ai pu recommencer.
Est-ce que tu te souviens du jour de ton départ, quand tu avais 19 ans ?
J'étais à la fois contente de voir un autre continent, avoir autre chose. Et de l'autre côté, j'étais vraiment malheureuse quand je voyais ma mère. Parce que ma mère, elle se cachait, parce que les larmes écoulaient. Et de toute façon, normalement, s'il n'y avait rien, je rentrais à Tunis. Hein. Je n'étais pas partie pour dire que je trouvais. Si je trouvais, c'était très bien. Si je ne trouvais pas, c'était, je rentrais. Je suis arrivée en 1973, c'était les élections de Giscard d'Estaing.
Giscard d'Estaing a donc été élu aujourd'hui président de la
République. Et quand tu as atterri en France
Tout est gigantesque, tout est grand. À Tunis, c'était tout petit, là, tout est grand. Et c'était un merveillement à chaque fois que tu partais quelque part, c'est grand. Et c'était le métro le plus... C'était quelque chose, le métro. Que tu arrives d'un point A à un point B vite fait, c'était quelque chose extraordinaire.
Mais à Paris, tu as découvert, j'imagine, de nouveaux titres.
Et j'adorais Joe Dassin, Dave et Mike Brandt. Et j'ai mis dans ma chambre Mike Brandt le poster. Moi, j'adorais ça, c'était une liberté totale. Je faisais ce que je voulais, j'achetais Salut lui les copains, qu'à Tunis, si j'avais pas d'argent, je pouvais pas acheter de journaux. C'était une époque, mais extraordinaire.
Mais qu'a-t-elle fui exactement ? Personne parmi mes rares oncles et tantes francophones n'ont voulu ou su me répondre quand je leur ai posé la question. Encore aujourd'hui, malgré mes sollicitations, les téléphones sonnent dans le vide et les mails restent sans réponse.
Quand j'étais en France, je partais au moins 2 fois par an. Ah si, je
partais. Qu'est-ce qui te manquait le plus ?
Mes parents. C'est pas ni le quartier, ni la Tunis. Ce qui me manquait, c'est mes parents. Et ça, c'était très dur pendant au moins 4-5 ans. Je retournais souvent, hein. Ça me semblait trop pesant de ne pas les voir.
Et pour eux aussi ?
Ah oui, ma mère, à chaque fois quand je l'avais au téléphone, elle pleurait. Chaque fois. Et mon père était heureux à chaque fois que je retournais. Oh là là,
Et toi, tu t'es pas dit, bah non, finalement, je vais rester à Tunis parce que c'est trop dur, j'ai personne là-bas.
C'est-à-dire, ben non, j'ai aucun avenir à Tunis. Il n'y a pas tellement de travail. C'était une époque qui n'était pas non plus facile. Hein. Ah non, non, non. Et mon père, il me disait, oui, nous, peut-être on souffrira, mais il faut que tu construis ton avenir. Tu es la dernière. Et tes frères et sœurs, ils ont chacun leur vie et personne ne sera là pour toi.
Madame, monsieur, bienvenue à Tunis.
En partance pour Tunis, je décide de faire appel à Ella, que j'avais rencontrée lors d'un reportage sur les jeunes artistes tunisiens post-Ben Ali. Depuis ces 10 dernières années, Ella est devenue mon point de repère à Tunis. Tour à tour guide, fixeuse, confidente et complice dans cette quête familiale et identitaire. On a échangé pendant 3 ans sur Soulef et ses chansons, et c'est elle qui a retrouvé sa trace. Et en retrouvant ses coordonnées, et là, m'enjoint avec malice à aller jusqu'au bout de mon obsession.
Le problème, c'est qu'on n'a pas pu la joindre. Oui. Et on aimerait bien.
Je ne sais pas vraiment ce que je cherche en allant à sa poursuite, mais c'est un prétexte comme un autre pour revenir à Tunis, sur les traces perdues de ma famille.
C'est étrange que tout arrive comme ça.
Oui, bah, faut saisir les occasions.
Bonjour, enfin.
Sur place, je retrouvais là, chez sa tante, en compagnie de sa sœur Monia et de sa grande-tante.
Et ma grand-tante.
3 générations de femmes m'accueillent et m'accompagnent dans les rues du quartier de Mutuelleville, jusqu'à l'immense demeure fermée de la chanteuse.
On va frapper à la porte de Soulef avant.
Je suis cette joyeuse délégation, tout en trouvant ça fou d'avoir encore de la famille à Tunis et de me retrouver pourtant accueillie et guidée par des femmes que je connais à peine, d'autres tantes que les miennes.
C'est chez Soulef, là ?
Ouais.
شكون ?
Aslima, ana hela ma Maïssa.
سامحني بربي.
اي
المره اللي عندها قالت لي لا مدام سوليف خرجت هي ولدها من ثلاثه.
On repart.
Très très
OK, عايشك ميرسي. عايشك.
En bonne diva, la chanteuse joue les arlésiennes.
Elle est sortie avec son fils.
Et je ne sais plus si c'est si important que ça de la voir. Ce qui se passe actuellement dans les rues de Tunis qui basculent dans la nuit me semble en un sens plus important. Il y a ces retrouvailles avec mon amie Ella, ces échanges avec ces femmes touchées par ma quête et qui semblent la comprendre mieux que moi.
Elle a un côté très diva.
On finira par la voir.
Il faut la coincer dans une ruelle.
J'ai le sentiment d'avoir ma place ici parmi elles et je me sens bien.
On dormira devant chez elle, des trucs comme ça.
Et puis il faut dire que si je m'accroche à Soulef, c'est parce qu'il est plus facile de poursuivre cette icône un peu irréelle que de rechercher Nordine, l'oncle disparu de la circulation sans raison connue, ou de refrapper à la porte de Swad, aujourd'hui brouillée avec ma mère et qui ne répond plus à mes messages. En guise de consolation ce soir-là, Monia, la sœur de Ella, qui est spécialiste en philosophie du langage et fine connaisseuse du dialecte tunisien, me fait le cadeau de me traduire précisément cette chanson, Yabou Dalel.
Vous voulez l'écouter encore ou on arrête hein?
On peut arrêter.
Oui. Abou Dalé, le père de la gâterie. J'ai traduit ça comme ça. Donc, les paroles. Bon, au père de la gâterie, au gâté, tout ce qui vient de toi est accepté. Père de la gâterie, sois indulgent avec moi. Personne d'autre que toi jamais ne me satisfera. Parfois, tu fais preuve de fidélité. Parfois, tu me promets et tu ne tiens pas ta parole. Oh, que j'ai peur que tu aimes quelqu'un d'autre, oh que j'ai peur que notre amour finisse. Père de la gâterie, sois indulgent avec moi. Jamais ton amour je n'abandonnerai, le gâté, le brun, au corps parfait. Père de la gâterie, sois indulgent avec moi. Personne d'autre que toi jamais ne me satisfera. Voilà, ça c'est Yabout Dalel, Yadallou.
C'est Yabout Dalel, le père de la gâterie, mais enfin, on dirait qu'on décrit un enfant gâté.
Le père de la gâterie, c'est pas le père en fait, c'est-à-dire c'est lui qui représente tout ça en fait, le symbole de tout ça, de l'amour, de l'idolâtrie, c'est le chéri en fait. Donc elle est en train de courtiser cette personne-là.
Voilà, Et là à ce sujet, j'ai toujours été très étonnée. On a toujours dit que les femmes d'autrefois étaient opprimées, alors qu'on retrouve des chansons des années 50 qu'on n'oserait même pas chanter aujourd'hui. très paradoxal.
Toi, le brun au corps parfait, c'est vrai que ça surprend quand même.
C'est surprenant de trouver ces descriptifs venant d'une femme, en fait, vis-à-vis de son amoureux, dans une civilisation arabo-musulmane, etc. Donc, mais là, c'est une période très propice à cette liberté d'expression chez les femmes, surtout après l'indépendance. Il y a un tiraillement entre les valeurs, la famille, les traditions surtout, et cet élan vers l'ouverture, vers la liberté de la femme. En fait, ça insiste sur ce point-là, l'image de ces chanteuses-là, le rôle aussi dans la société. En même temps, c'est un message qu'on transmet, c'est un modèle aussi pour d'autres femmes qui encouragent à aller de l'avant, qui l'embellit, qui l'encouragent à faire plus, etc. Donc c'est l'image que transmet toutes ces chanteuses-là.
Ce que me dit Monia me parle. Surtout quand je revois ma mère dans ses albums de jeunesse, avec d'autres jeunes femmes du même âge, qui rient ensemble, s'entourent de leurs bras. Elles portent des jupes courtes et des débardeurs en laine sur des chemisiers clairs. Des coiffures sophistiquées, comme celles de Soulève sur les pochettes de ses disques. À la page d'après, il y a encore des amis de ma mère à Tunis. Et un visage de petit garçon aimante mon regard. Je ne sais pas qui il est. Et surtout, je m'étonne de voir ce petit visage si triste au milieu de tous ces sourires. Je décolle la photo de l'album. Au dos, un nom et une année d'une écriture que je ne reconnais pas. Adnan Sbis, 1964.
Oui.
Oui, Haslem, Adnan Mehdi Sbis.
Oui.
Excusez-moi. En googlisant machinalement Adnan Sbis, je trouve le visage souriant d'un homme plutôt élégant sur les réseaux sociaux. Son profil indique Banque Agricole Tunisienne. J'ai retrouvé, il me semble, une photo de vous tout petit dans un album de famille de ma mère et je voulais vous rencontrer.
Et comment vous avez su que c'est moi le type ?
Ça ne colle pas beaucoup avec le profil socio-professionnel de ma famille. Je suis sûre à 100%. Mais physiquement, il y a quelque chose qui me retient. En fait, vous ressembliez...
Non, ça ne dérange pas, juste une petite question.
D'accord.
Et votre mère habitait où ?
Alors, elle habitait pas loin du musée du Bardo, petite, et ouais. Après, rue de Kérouan.
Ah, rue de Kérouan, oui. Rue de Kérouan, oui.
Ok, ça vous dit quelque chose.
J'ai l'intuition d'avoir saisi un fil à travers ce petit visage triste. Et j'ai peur de casser ce fil avant d'accord. même d'avoir pu commencer à le tirer.
Dans une heure, oui. Dans une heure, ça me va très bien. Merci.
Ok, ok, ok.
Merci. Bonjour.
Bonjour,
comment ça va ?
Merci
beaucoup d'avoir accepté.
Il n'y a pas de problème. Vous prenez quelque chose d'abord ?
J'allais vous le proposer. Qu'est-ce que vous prenez, vous ?
J'ai commandé un jus d'orange, d'accord. Et le nom de famille, c'est quoi ?
Chaudet, ça vous dira
Chaudet,
rien, mon nom
d'accord.
de famille, parce
votre
que...
mère, vous avez dit, c'est...
Radia Ben Rayem.
D'accord, on va y aller par étapes. Alors, ce qui m'a un peu retenu dans votre communication, vous avez dit rue de Kérouan. Là, ma famille a habité de décembre 64 jusqu'à la mort de ma mère et de mon père, 2020. Bon.
Je vais vous montrer des photos.
Oui.
En fait,
photos,
voilà.
Vous
voilà.
les avez trouvées dans l'album. Voilà. C'est la fameuse. C'est mon écriture, ça.
C'est votre écriture.
Adnan Sbis, 1964. J'avais 4 ans, j'étais pas à l'école. Et moi, je pleurais. Parce que mon père voulait nous prendre en photo et prendre mes frères et sœurs à l'école. Et moi, je voulais boire le café avant. Donc, comment elle a atterri chez ta mère ? Ça, c'est une bonne question à résoudre. Moi, je suis en train de chercher. Ah, c'est formidable. Donc, vous l'avez trouvé dans un album ?
Dans un album de photos de ma mère, où il y a aussi plein de photos d'elle avec ses frères
Alors,
et sœurs.
Alors, si je peux la reconnaître, voilà, ça me facilite.
Là, vous ne la voyez pas très bien. Non, elle est cachée
par ses frères. Ça, c'est la goulette.
Attendez, j'en ai plein d'autres, des photos.
C'est la vie, c'est petit, là.
Alors, ça, c'est ma grand-mère, qui a beaucoup fréquenté la rue de Kérouan, Chérifa Ben Amor.
Ouh ! Néjia ! Néjia, sa fille, c'est...
Jalil. C'est ma cousine, Jalil.
C'est la cousine de quel côté ?
De ma mère, du côté de ma mère. Parce que
tu es la fille de qui ?
De Radia.
C'est pas vrai ? Tu es la fille de Radia ? C'était notre grande amie de la famille. Oh ! Chérifa, Radia, Najia, Souad. Moi, je l'ai perdue de vue depuis 80. On ne s'est plus revus parce qu'elle était partie en France, c'est vrai. Elle venait chaque été. Mais par la suite, on s'est perdu de vue. Tu ressembles à Radia. Radia avait le visage de cette façon. Oh. Alors, malheureusement, ma sœur qui est décédée, Henda, était plus qu'amie. Ma sœur Henda, elle était née en 56, Radia en 55. Elles étaient comme deux...
Doigts de la main.
Deux doigts de la main. Alors, elle a passé beaucoup plus de temps chez nous que chez elle. Elle avait 16, 17, 18 ans. Elle avait l'âge de mes sœurs. Donc, elle préparait des gâteaux, elle était avec mes sœurs. On organisait les anniversaires. On dansait. Elle aimait écouter mon gâteau, mais avec ma sœur, on s'aimait. On était de très, très grands voisins. De très grands voisins qui s'aimaient par... on allait, l'Aïd, on allait rendre visite à Chérifa et Ravia. C'était comme ma grande sœur. Elle avait un penchant pour moi exceptionnel, extraordinaire. C'est pour ça qu'elle a gardé sa photo. Elle avait un penchant exceptionnel pour moi.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle faisait?
Elle nous, dans le bon sens, elle nous adorait, elle nous admirait. Et on était très proches. Qu'est-ce que je peux... Une seconde. Là. Désolé, Billy. Je suis émotif. 75, ça remonte à 50 ans. Hein. C'est pas hier. Hein. Elle venait, elle préparait les gâteaux. Elle faisait leurs cheveux. Il y avait le séchoir pour se préparer. Elle sortait en ville pour faire des courses. Elle restait écouter en calçon. Elle venait voir parce qu'auparavant, la télévision, c'était important. Et lorsqu'il y a des feuilletons, tout le monde se met dans le salon. On regardait le feuilleton égyptien. Tout le monde le regardait chaque samedi. Donc on attendait samedi. Le mariage de ma sœur, elle était présente, elle faisait partie des gens de la maison. On faisait tout ce que faisaient les jeunes de l'époque. Parfois, elle descendait jouer au volleyball dans le quartier, parce que dans le quartier, il y a les grands immeubles, il y a un grand parking. Et là, c'était une enclave. On était un peu protégés. On avait beaucoup d'étrangers. Il y avait des Tchèques, des Russes, des filles et des garçons. Donc, c'était un cosmopolite.
Et ça, c'était rue de Kérouan.
C'était rue de Kérouan. Oh, heureusement que je suis venu, hein. Non, mais le nom que tu m'as avancé, si tu m'as dit Haïm, j'aurais tout de suite deviné.
Mais ça, tu vois, c'est tout mon malheur, entre guillemets, c'est que j'ai tellement pas cette culture et cette langue
Tu ne peux pas retenir. Ah, viens là.
Voilà.
Maintenant, je le reconnais. Voilà, vous avez ça en commun. Radia, elle aimait la vie, elle aimait chanter. On chantait Gérard de Normand, toutes les chansons françaises de l'époque. On suivait Radio Tunis. Elle aimait Michel Polnareff. Elle adorait Michel Polnareff, Sylvie Vartan, Sheila, Ringo. Je risque de n'oublier beaucoup. Par exemple, il y avait une émission de midi à 13h. Là, on passait des chansons qu'on aimait à la radio avec des dédicaces. Donc tout le monde, on attendait cette émission à la radio pour l'écouter. Mais tu vas lui transmettre toutes les salutations. Ah, j'ai des frissons.
Je rentre à l'hôtel le soir, pleine de ce récit, et légère aussi, comme délestée d'une angoisse. Je n'ai pas découvert d'autres sombres secrets de famille, comme je le redoutais. J'ai aimé voir ma mère danser, chanter avec ses voisins, dans la joie, loin des larmes. Sur le chemin de l'hôtel, dans la rue Sidi Ben Arlous, je passe par le café de Riba, où je vois plein de jeunes gens ensemble en train de boire du thé, de fumer. C'est joyeux et les tables sont pleines en terrasse. Des femmes et des hommes jouent de la musique et chantent ensemble des chansons de Fairouz, d'Oum Kalsoum, de Warda, et contaminent toutes les tables voisines de leur allégresse. Je réalise à ce moment-là que Soulef m'a aussi ouvert une porte vers cette musique que je ne connaissais pas et que je me suis mise à écouter avec avidité. Je me suis dit aussi que ces gens qui connaissent si bien tout ce répertoire ont eu, à travers ces chansons, des mots de leurs parents, de leurs grands-parents, et que c'est aussi grâce à ça qu'une histoire se transmet. Alors que mes appels à mes oncles et tantes restants, à ma cousine Jalila, ont constamment sonné dans le vide ces derniers mois, ce sont des inconnus, des étrangers, qui m'apportent les mots et les récits qui m'ont jusqu'ici manqué. C'est pour ça, je crois, que j'ai voulu revoir Adnan dès le lendemain. Et bien sûr, je lui parle de Soulef.
C'était des chansons qu'on écoutait lorsqu'on était en cuisine avec sa famille. C'est des chansons qu'on trouvait au niveau des mariages, qu'on chantait. Hein. Cette chanson et cette chanteuse et bien d'autres. On ressent tout le temps, sick home.
Le mal du pays.
Mal du pays, voilà. Donc, je la comprends.
Quand elle a pleuré, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle m'a dit, il n'y a rien. Et elle s'est tue. Et je suis revenue à la charge quelques mois après en lui disant, mais pourquoi tu as pleuré? Et elle m'a dit, ça m'a rappelé une mauvaise période où Negia devait se marier avec un homme qui finalement ne l'a pas épousée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal à croire à cette histoire. Il y a quelque chose en moi qui résiste à la croire.
Qui dit que ce n'est pas vrai? Bon, non, ça peut être vrai. Parce que moi, je me rappelle, durant mon mariage, il y avait une chanson qu'il mettait à longueur de journée. Dès que je l'entends, je me rappelle. Ah, donc, je me dis que ce n'est pas un point sur lequel tu pourras t'inquiéter. Et ça m'étonne que Radia aurait refusé. Elle te dira, j'ai connu un mec qui me chantait ça. Si c'était ça, elle te l'aurait dit. C'est pas une chose. Bien que je me rappelle, durant les 5, 7, 9 ans, je ne me rappelle pas avoir Radia avec un garçon.
Elle n'était jamais avec un garçon.
Du moins, en apparence. Et puis, comme elle était... comment dire, couvée, elle était enclavée, ça m'étonne qu'elle ait eu le temps de connaître une personne à cette époque.
Qu'est-ce qu'elle disait, ma mère? Pourquoi elle voulait partir?
Même maintenant, tout le monde veut partir vivre en France. Radia ne travaille pas. Elle a quitté l'école un peu tôt, disons à 14 ans. Ça, c'était le commun de 50% des Tunisiens et Tunisiennes. Et puis, comme les parents ne poussaient pas, déjà, tu sais lire, écrire, bon, elle reste à la maison. Tu as posé une question hier, qu'est-ce qu'elle faisait à la maison? Ma sœur faisait des crochets. Hein? Radia essayait de faire avec elle ou bien le tricot. Il y avait 36 000 activités à faire à la maison, hein, comme je t'ai dit. Voilà, donc pour revenir, son départ, c'était pas une chose exceptionnelle. On cherchait à se faire un avenir. Qu'est-ce que je dirais de plus? Dommage. Je sais que la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était en 79. Et on se perd de vue. Il y a eu par la suite Souad qui habitait à rue de Bizerte. C'est comme ça qu'on a pu avoir de nouvelles informations sur la famille. Ah, elle nous a dit, Chérif a décidé, ah, Radia, elle vient souvent... Mais le point de contact, maintenant, c'est toi. Tu as vu? Je suis content et je ne regrette pas d'avoir fait ta connaissance.
Moi, je suis vraiment ravie. Je savais que cette photo, elle allait me mener quelque part. Je le savais.
En écoutant Adnan, j'ai cette sensation apaisante de pouvoir pour la première fois relier des points entre eux. Après mon premier test ADN, j'ai mis des années à retrouver un chemin vers mes parents et vers ma mère en particulier. Le silence nous avait bien abîmés. Ce chemin devait donc passer par Tunis pour retrouver ce temps d'avant le départ, avant que ma mère n'arrive en France à la recherche de plus, de mieux, et qu'elle ne perde une part d'elle-même. Là, grâce à Adnan, et à Soulef aussi, j'ai l'impression d'avoir réussi à retrouver ce petit bout de ma mère qu'elle a laissé à Tunis.
J'ai 670 chansons.
Au bout de multiples coups de fil entre Hela et Soulef pour fixer un rendez-vous, nous la rencontrons enfin avec son fils dans un café. Et à ce moment-là, je ne sais plus trop quoi lui dire. Mais quelque chose se noue.
Les gens qui connaissent vos chansons me disent que vous avez beaucoup fait, grâce à vos chansons, pour l'émancipation et la libération des femmes.
Bien sûr, je suis la fille de Bourguiba.
Elle se colle à moi et me saisit par le bras en m'appelant ma chérie.
Pour apprendre aux gens,
je tente de garder une distance journalistique qui à ce moment-là devient un peu absurde. Sa proximité et son grain de voix me ramènent ma grand-mère et mes quatre tantes tout à la fois.
Pour les femmes, il faut être moderne. Elle s'habille bien, elle parle bien, gentille avec les gens.
Comment elle s'appelle votre maman?
Radia.
Radia. Un message à Radia.
Elle parle arabe, Radia.
Oui.
راضي عزيزتي شكرا على تحفونا بنتك اللي بعثتها لي للانترفيو الحلو وحبيت
alors moi même si je suis loin d'avoir tout éclairci de mon histoire familiale, je suis heureuse de pouvoir ramener à ma mère un petit bout de soulève.
اللي كنا غنيات الكل اللي حبيتهم الاغنيه اللي غنيت لك في عرسك.
Est-ce que quelqu'un peut me traduire ?
Non, tu devrais payer pour
on
ça.
On fera après.
C'est énorme ça, tu devrais payer pour ça.
Elle a dit qu'elle était très heureuse. Elle t'a dit, j'espère.
De l'avoir vue. C'est grâce à elle.
À ta maman.
Et grâce à toi qu'elle apprécie maintenant ta maman et qu'elle espère la voir bientôt ou à Tunis ou à Paris. Et qu'elle lui chantera toutes les chansons qu'elle aime.
Elle disait au début. J'ai rencontré ta fille et que j'ai beaucoup apprécié et aimé. Et ils ne le disent pas, lui et son fils. Elle me dit, Radia, j'ai rencontré ta fille, elle est très jolie, très belle, et j'ai beaucoup apprécié et aimé. Alors,
qu'est-ce que ça t'a fait de...
Oh là là, déjà, sa voix, ça me plonge d'être à Tunis. Et une époque, ce n'est pas cette époque-là, une époque. Sa voix, ça sent, c'est une voix tunisienne. Tu vois, le Maghreb, il y a l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais sa voix, c'est vraiment, il y a, comment t'expliquer, c'est pas une texture, c'est quand on l'entend, on sait que c'est tunisien ou marocain ou algérien. C'est marrant, elle, même si je la vois pas, j'entends que c'est tunisien.
C'est vrai que moi, sa voix, même quand elle, sur le disque que j'ai ramené, moi, ce qui m'a peut-être touchée, je pense, c'est que ça m'a rappelé Nejia
quand
j'étais petite.
Ah oui, ça, c'est vrai, oui. Et c'est vrai que ça me rappelle quand même quand j'étais petite et j'étais jeune, quand elle chantait comme ça devant Bourguiba. Là, j'ai regardé des vieilles vidéos sur YouTube et je trouvais que ça te plonge en arrière et... C'est dingue, on ne se perçoit pas quand on est jeune de ce bonheur, c'est une autre vie. Et ça m'a fait très, 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 vraiment très plaisir que tu aies été la rencontrer et elle était vivante, c'est ça.
Je vais allumer la lumière, ça ne va plus durer très longtemps. Avant, je voudrais quand même te poser encore une question. Ça va, tu veux du thé encore ou pas ?
Ah non, ça va.
Moi, ce que je me suis dit par rapport à toute cette histoire avec cette chanson et tout, c'est que, tu vois, en fait, je me suis rendu compte au moment où je t'ai vue pleurer et qu'en fait, toute cette petite histoire familiale-là et la langue, ça m'avait vraiment manqué, en fait. Toi, aujourd'hui, tu me dis que tu comprends ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a quand même eu une partie de toi qui n'a pas voulu que je sois arabe, en fait. T'as fait vachement d'efforts d'intégration, t'as essayé de parler français du mieux que tu pouvais, d'adopter les codes des autres mères de famille ça. Avec tes foulards en soie.
C'est les foulards en soie, ils sont venus bien après.
Non, mais tu vois, c'est un détail. Mais d'adopter les codes, en tout cas, de ces femmes-là. Et moi, je me dis, avec mon regard d'adulte aujourd'hui, mais tu vas me dire, hein, si t'as pas essayé de gommer une partie de toi-même... Bah
Certainement.
Est-ce que parfois tu regrettes d'avoir fait autant d'efforts pour gommer ce que tu étais initialement, c'est-à-dire une jeune femme arabe
Maintenant, oui, à notre époque actuelle, mais pas à l'époque. Je le regrette à certaines choses. Comme tu voulais apprendre l'arabe, tu voulais... Ça, c'est vrai, j'aurais pu ça même...
Mais tu vois, par exemple aussi, ça va peut-être te paraître déconnecté, mais ça va un peu ensemble. Mais je me dis que quand tu me parlais de ton travail, en disant que tu étais secrétaire dans un cabinet médical,
oui.
et qu'en fait...
Tu le savais.
Le ménage. Moi, tu vois, j'ai toujours été fière de toi. Là, avec mon regard d'adulte, je me dis, elle s'est quand même fait la guerre à elle-même. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que tu sois arabe, mais il ne fallait pas que tu sois femme de ménage chez des gens.
Même toi, je ne sais pas, maintenant, peut-être tu ne te rappelles pas, tu ne voulais pas. Je me rappelle une seule chose. Tu es revenue de chez Babou, tu sais...
Elisabeth,
oui. Et pourquoi nous, on n'a que ça ? Elle a tout ça, maman.
C'est tout le drame, entre guillemets, d'avoir été plongée dans un monde qui n'était pas le nôtre. C'est-à-dire que tu nous as forcés à nous élever socialement, mon frère et moi, en nous faisant baigner dans ce milieu qui n'était pas du tout le nôtre. Et puis en cachant un peu ce qu'on était aussi.
Bah oui, je fais peut-être... C'est vrai, quand on regarde la guerre à moi, parce qu'il fallait absolument être intégré... Peut-être plus qu'intégrer, je voulais avoir plus pour vous. Et je me suis battue aussi.
En fait, on a obtenu quelque chose que toi, tu n'as pas eu, pas eu la chance d'avoir, et ni notre père. Mais on a, au passage, perdu quelque chose.
Ah ça, oui,
qui est
oui,
une
je
part
comprends.
De notre identité tunisienne.
Ça, je ne peux pas le nier. En gagnant une vie que vous avez perdu d'autres... un héritage culturel, familial, autre. Et tu vois, maintenant, même si je parlerai à mon petit-fils en arabe, ce qui est paradoxe, c'est quand même... Je n'ai pas honte de lui dire quelque chose en arabe. Qu'avant, je me retenais pour te le dire ou de le faire.
Par honte ?
Bah oui, c'est des arabes.
Et puis moi, à Sciences Po, ça ne m'a pas empêché, malgré mon nom et mon prénom, d'être appelée le quota. Hein.
Ah oui, bah oui. Ah ouais, tu vois. Quand je regarde, tu pourrais gommer tout ce que tu veux, mais tu gommeras rien. En fin de compte, tout te revient comme un boomerang. C'est quand même...
J'avais intégré cette honte aussi. Alors que maintenant, je me laisserai plus faire et je serai très... Enfin, aujourd'hui, je suis très fière de ce que je suis, même s'il me manque... quelque chose,
ouais.
la langue en premier lieu, mais ça...
Oui, mais Marin, il va te l'apprendre. J'espère. Mon petit-fils, oui. J'espère.
Merci à ma mère Radia, à mon père Daniel, à Pierre, à Marin, à Adnan Sbis et à Soulef. Un immense merci aussi à El Alamine, à sa sœur Monia, à sa tante Swad et à sa grande-tante Wassila, ainsi qu'à Sarah Grira. Merci à Rémi Dibowski-Douat pour son accompagnement et ses conseils. Et merci enfin à toute la bande de musiciens du Café Driba à Tunis.
C'est petit ce bras. Et à la poussette. Ça, le karhaba. Tu vois, la voiture, c'est le karhaba.
La maison.
L'asfour.
Ce documentaire a bénéficié du soutien de la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM.
C'est la Rasfour.
Prise de son studio, Éric Villenfin. Mixage, Jean-Baptiste et Tcheparebord.
Oui, Tefeha. La pomme Tefeha.
Attaché d'émission, Aurélie Marsay. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet.
Yalla, yalla, yalili, yalla, yalla, yalili. Tu vois, et c'est la chanson... En arabe et en français. Ma grand-mère est chantée. Tu vois,
un documentaire d'Émilie Chaudet.
C'est quoi la suite de l'histoire ?
L'expérience. Enfants, regarde, Aurélie Charron et Inès Duperron.
Yélili, yélili.
C'est pas ça.
وش حالي فيه ملوف علي وش هدي